France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Le désert, un espace censément vide qui se remplit au choix de tous nos fantasmes. Ses représentations littéraires et cinématographiques varient selon ce qu'on veut lui faire dire. Tantôt hostile, angoissant ou bien inspirant, et doté d'une dimension spirituelle unique, pour ne pas dire mystique, ou encore apaisant, ressourçant, suspendant enfin le temps, comme les sables éternels qui s'y déploient, surtout dans notre imagination. Bien souvent, l'infini de l'espace ou son vide supposé sont aussi liés à la représentation d'un temps sans limite, immobile, sans trace ni heure, comme le paysage état d'âme qu'il incarne. Évidemment, la façon dont on raconte le désert, tragique ou orientaliste, fatal ou légère, plein ou vide, en dit davantage sur nous-mêmes que sur des espaces géographiques et géologiques précis d'une grande diversité, d'une flottante, plaine caillouteuse ou même désert polaire, qui se ressemblent essentiellement par leur aridité, mais se distinguent de bien des façons. Toutes ces visions désertiques s'entassent depuis une dizaine d'années les unes au-dessus des autres et me permettent de survivre, écrit Rachid Boudjedra, parce qu'à vrai dire, j'ai toujours été stupéfait devant n'importe quel paysage du Sahara, conclut-il. Tout de suite, Élise Andrieux a cherché pour vous quelques histoires de déserts, machines à fantasmes.
Je m'appelle Morgane, j'ai 49 ans. Alors, il y a 2 ans, à l'automne, j'avais envie de partir, de faire un voyage. Et je suis tombée sur des photos qui m'ont stupéfiée. Notamment sur une photo que j'ai vue, où on voyait un arbre au milieu du désert de Namibie, qui se tenait debout tout seul. Le ciel est bleu, les dunes sont ocres. Le désert est blanc et les arbres plus en arrière sont noirs. Tous, ce sont des acacias. J'ai vu cette image et ça a été un choc. Je me suis dit, je veux aller là-bas. Ils ont environ 900 ans. Ils sont dans une cuvette d'argile et de sel. Il y avait de l'eau avant, c'est pour ça qu'ils ont réussi à pousser. En fait, depuis 900 ans, ils sont morts, mais ils tiennent encore debout. À cause de la chaleur et de la sécheresse, ils sont tellement secs qu'ils ne se décomposent pas. Et c'est ça qui m'importe, c'est le fait qu'ils soient debout. Un peu comme moi. Je suis ce qu'on appelle une enfant placée par les services sociaux à ma naissance. J'ai vécu 11 mois dans ce qu'on appelait une pouponnière à l'époque. Et à l'âge de 11 mois, j'ai été placée dans une famille d'accueil. Ma famille biologique vivait dans un taudis, il faut appeler un chat un chat. Mon père, je n'ai absolument aucun souvenir de lui parce qu'il est décédé dans un accident de voiture. Et donc, ma mère, je ne m'en souviens pas parce que je me souviens de l'avoir vue pas avant l'âge de 7 ans. À l'époque, on m'a dit qu'elle était débile léger. Elle me faisait peur. C'était un peu une sorcière, quoi. Pourtant, elle n'était pas méchante du tout. Elle était dans son monde. Alors, je n'ai aucune idée de comment on choisissait les familles d'accueil à l'époque. Je sais juste que ça ne se bousculait pas au portillon et que donc les services sociaux étaient peu regardants. On m'a choisi une famille de classe ouvrière. Ils avaient 4 enfants. Je me souviens de 2 moments phares, c'est à 7 ans et à 9 ans, où ça n'allait pas du tout. Je pleurais la nuit, toute seule dans mon lit, parce que j'étais pas heureuse, quoi. Et ils devaient m'entendre, mais ils ne se déplaçaient pas. On ne me demandait jamais comment j'allais. On ne se touchait jamais. On ne se disait jamais de mots gentils. Et le vide affectif que j'ai eu, pour moi, c'était du vide complet. J'étais livrée à moi-même. J'avais le sentiment d'être seule au monde. Alors, il y avait un endroit dans la maison qui était grande, qu'on appelait le Kajibi. C'était un endroit où on stockait des affaires. Et il n'y avait pas de fenêtre. Il faisait chaud. Il y avait la chaudière dedans. Et il y avait des coussins. Donc, je m'asseyais là. Soit je jouais, soit je lisais. Il n'y avait que là où j'étais bien, j'étais dans mon cocon. Et je lisais tout ce qui me tombait sous la main, que ce soit des almanachs ou des romans ou des magazines, des bandes dessinées. J'ai lu tout et n'importe quoi. J'ai lu Le Trahamon à l'âge de 14 ans, je n'y ai rien compris. Mais la lecture m'a sauvée. J'étais très seule, donc dans le vide. C'était comme si j'étais dans le désert toute seule. Il n'y avait personne. Je n'étais l'enfant de personne, en fait. Et donc, j'ai compris que ma vie, c'était un désert. Et quand j'ai vu cette photo de la Namibie, de cet arbre et de ce désert, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est moi, ça. J'avais le vide en moi. Le vide, si je devais le décrire, il serait transparent. C'est infini, il n'y a absolument aucun contour, ça prend tout, mais c'est physique. Et donc, quand on manque de quelque chose à l'excès, ça pèse. Et je l'ai ressenti durant mon enfance, jusqu'à il y a 15 d'années. Je me raccrochais à mes amis, je me raccrochais à certains de mes amours, je me raccrochais au bon côté de la vie. Et j'aime la vie, en fait. Le vide, il me quitte petit à petit, en fait, au fur et à mesure du temps. Et là, je voudrais qu'il me quitte définitivement. Donc c'est pour ça que je veux aller dans le désert, dire adieu au vide. Et dire je reste debout, quoi qu'il advienne.
Désert à 25 ans, c'était un de nos premiers voyages avec le père de mes enfants. Et puis la vie a passé, on a eu des enfants, puis on s'est séparés. Et est toujours restée toute ma vie l'idée de retourner dans le désert. Ensuite, pour l'anniversaire de ma fille, ses 20 ans, et mon anniversaire, mes 50, notre famille nous a offert un voyage. Et moi, en fait, j'ai proposé à ma fille le désert mauritanien. Et donc, nous partons en janvier 2020, voilà, avec un groupe. Et donc, nous arrivons à l'aéroport principal dans la Drar. Nous sommes accueillis par notre guide. Et très vite, en fait, je sens que cet homme me plaît. Cet homme, donc, qui s'appelait Mehdi. Et là, je suis assez surprise parce que être tout à coup saisie par quelqu'un, c'est quelque chose de rare. Hein. Et puis là, donc, au petit déjeuner le lendemain. Je me suis réveillée en premier, donc voilà, je lui ai posé des questions un peu sur sa vie, son travail. Ça. J'ai noté aussi qu'il était spécialement attentionné à mon égard. En fait, Mehdi parlait parfaitement français, et donc il m'a expliqué qu'il avait grandi à Shingeti, l'endroit où nous nous trouvions. Et qu'il était donc marié et qu'il avait deux enfants. À ce moment-là, j'ai rangé le sentiment d'attirance que j'avais pour cet homme sagement dans un tiroir de ma pensée. Et donc nous avons passé une semaine merveilleuse. Et puis le voyage se termine, donc nous quittons Mehdi à l'aéroport et puis nous attendons l'avion. Et là, une des personnes avec qui on était dans le groupe, donc pendant cette attente, me raconte un peu davantage de choses sur sa vie à lui, qu'il s'est marié avec une de ses cousines germaines, des mariages arrangés qui se font beaucoup en Mauritanie. Que c'est sans doute pas un mariage d'amour. Et moi, à ce moment-là, c'est comme si finalement cette histoire que je m'étais refusée, là, tout à coup, je me disais, mais finalement, pourquoi pas? C'était pas tout à fait trop tard, parce que moi, de toute façon, ce voyage en Mauritanie m'a donné l'envie d'y retourner, comme bénévole dans le cadre d'une association. Et donc ça, j'en avais parlé avec Mehdi en lui demandant s'il connaissait des ONG ou des... Et donc j'avais son téléphone. Il m'a conseillé une association. Et puis très rapidement, on s'est appelé aussi par WhatsApp. Et en fait, lui, très vite, a fait glisser les messages sur un mode, disons, amoureux, ambigu. Voilà, finalement, on s'est dévoilé assez rapidement. Et donc, nous nous sommes dit, revoyons-nous. En même temps, on était... Donc fin janvier 2020, et le Covid arrivait. Toute cette année est passée sans qu'on puisse se retrouver, et malgré tout, on a réussi quand même à maintenir ce frémissement. En janvier 2021, il y a un projet avec l'association de voyage, et donc j'envisage d'y aller et de prolonger mon séjour pour le retrouver et aller marcher dans le désert avec lui. Et quand ce projet de voyage s'écroule parce que fermeture des frontières, j'essaye d'y aller malgré tout. Je me retrouve à Roissy, dans un Roissy complètement désert. Sur l'énorme tableau des vols, il n'y en a que deux. Et puis, la police de l'air et des frontières va considérer le motif humanitaire pour l'association que c'est un motif suffisant. Et hop, donc je vais partir. Je suis très heureuse. Le seul doute qui existe à ce moment-là en moi, c'est que le sentiment de saisissement, d'attirance pour lui est disparu. Donc j'arrive, je sors de l'aéroport à Nouakchott vers 5h du matin, dans une nuit noire. Lui sort de l'ombre. Et agit avec beaucoup, beaucoup de naturel. Il est très heureux de me voir et on se retrouve à l'arrière d'un taxi. Il me prend la main, c'est le premier contact. Et puis on fait un stop dans une chambre et c'est l'aube. Il y a le chant du muezzin et puis c'est aussi... la première fois qu'on s'embrasse, et là, moi, je sais plus trop où je suis. Nous avançons pendant une semaine dans le désert. C'était incroyablement beau. Tout était beau. Mehdi est un homme très gai, curieux des autres, très sensible, et puis vraiment une manière de parler très douce. Et il me semble que je suis tombée très vite amoureuse. Souvent, je me suis demandé comment Mehdi pouvait faire avec une femme comme moi, c'est-à-dire qui fume, qui boit, qui élève seule ses enfants. Finalement, Mehdi est la personne la plus croyante que j'ai jamais croisée dans ma vie. Et je pense que j'étais la personne la plus incroyante qu'il ait. Voilà. Et donc, on était tellement, tellement éloignés l'un de l'autre, avec tellement peu de références communes, et en même temps, un tel amour qui nous permettait de passer au-dessus. Et on parlait beaucoup et on se désirait beaucoup. Et puis ça s'arrête, on se quitte, je repars à Paris, on reprend nos échanges sur un mode plus déclaratif. Et puis les mois passent, il faut attendre l'automne, l'hiver pour retourner dans le désert. Et c'est à nouveau un très beau voyage et l'évidence est renouvelée. Et puis je retourne chez moi et jusqu'à l'été 2022 où Mehdi vient passer un mois en France. Donc c'était à mon tour de faire la guide et nous sommes allés pendant 15 jours faire le tour des baronnies provençales. C'est un endroit que j'avais envie de découvrir. Moi je ne savais pas du tout ce que pouvait donner notre histoire en France. Et comme ça, marcher en France ou dans le désert, en fait, tous les deux, on était très, 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 très heureux, enfin, tout simplement. Et pour moi, c'était très émouvant aussi de mesurer qu'il y avait certaines choses qu'il faisait pour la première fois. Par exemple, c'était fin juin, c'était la saison des abricots. Il n'y avait jamais mangé d'abricots. Et là, on en a mangé plein. Et puis moi, je commençais à me dire voilà, que la vie pouvait s'organiser comme ça aussi, avec un voyage l'hiver pour moi là-bas, et puis un voyage l'été pour lui ici. Enfin, et que ça m'allait très bien. Il me parlait d'âme sœur. Ouais, je trouvais ça très très fort. Voilà. Il me dit parfois, tu sais, Laure, quand on n'est pas ensemble, que je pense à toi, je me dis que tu es un djinn, donc un esprit envoyé par Dieu pour tester ma foi. Et là, ce jour-là, j'ai compris aussi à quel point, si un jour notre relation devait se compliquer ou prendre l'eau, ça pourrait être par là. Et c'est en décembre 2022 que je pars le retrouver. Il y a eu un moment dans ce voyage qui était spécialement beau, donc ça faisait 2 jours qu'on cheminait dans des gorges à sec et on avançait vers une guelta, c'est un bassin naturel rempli d'eau avec beaucoup d'oiseaux et j'étais tellement émue par cet endroit qu'on est resté le plus longtemps possible. Donc à mon retour de ce voyage, je raconte à une amie à quel point c'était merveilleux de pouvoir se baigner dans des bassins. Et puis, ça lui a donné envie Elle a organisé donc un voyage très rapidement et elle est partie avec une autre amie, et Mehdi donc a été leur guide pendant une semaine. Et 10 jours après leur retour à Paris, elle me propose de venir me voir et elle me dit si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une nouvelle à t'annoncer, Mehdi est mort. Et donc là, c'est pour moi la sensation que d'avoir été percutée, touchée par une flèche et qui a tout fait exploser à l'intérieur de moi. Voilà. La dernière fois que Mehdi et moi nous sommes parlé, c'était le lundi, mardi. Il est mort le jeudi. Et j'attendais qu'il m'appelle le week-end, puisque son voyage était censé être terminé. Ensuite, c'est une période où l'acceptation se faisait goutte à goutte. Et puis là, j'ai eu les coordonnées d'une personne qui faisait partie du groupe de touristes qui l'accompagnait au moment de sa mort. Donc j'ai eu cette femme au téléphone. Elle me raconte tout le déroulé du voyage jusqu'à ce moment, à l'arrivée d'un bivouac un soir. Et une forte douleur à la tête et il s'écroule et il meurt dans la minute. Donc ensuite, on saura que c'est un AVC. Je lui raconte assez rapidement notre histoire depuis 3 ans. Elle reprend la parole en me disant qu'elle voit très bien de quoi je parle puisqu'elle-même a vécu la même chose. Et ensuite, elle me dit qu'il lui semble que les deux histoires sont pas les mêmes, qu'elle n'a eu aucun signe d'engagement amoureux, contrairement à ce que je raconte moi. Et puis, donc, c'est une femme qui a l'habitude des voyages dans le désert et elle me dit que c'est une chose vraiment très, très standard, hein, des histoires entre des guides et des touristes. Alors déjà, c'était quand même assez le chaos en moi. Hein, mais là, c'est comme si le chaos au chaos, finalement. Je crois que j'étais tellement perdue que j'ai pas éprouvé de colère. J'ai éprouvé beaucoup la frustration qu'il soit pas là pour répondre à mes questions. Ensuite, j'ai appris aussi qu'il n'avait pas 2 enfants, comme il me l'avait dit et comme il le disait à tout le monde, mais 5. Et notamment une petite fille qui est née quelques jours après sa mort. Est-ce qu'il disait avoir 2 enfants pour se conformer aux standards européens et dans son lien aux femmes avec qui potentiellement il peut avoir une histoire? S'il dit qu'il a 2 grands-enfants, c'est pas tout à fait la même chose que dire qu'il a 5 enfants, dont un bébé à naître. Ça, clairement, pour moi, ça aurait été rédhibitoire. Bien sûr, je lui en ai voulu. Enfin, je me suis demandé si j'avais été tellement à côté de la plaque et complètement cruche, quoi, de me laisser prendre à une histoire complètement romantique. Voilà. Pour essayer de faire le tri, bien sûr, j'ai relu tous nos échanges. J'ai regardé toutes les vidéos plusieurs fois, les photos, enfin, bon, bref. Et j'ai vu quand même si j'essayais que mon regard soit vraiment acéré sur ces échanges, j'ai vu la progression des sentiments, les déclarations de plus en plus libres. J'ai vu une histoire qui se construisait et qui était vraie. Et à la fois, je ne peux pas m'être trompée complètement sur 3 ans quand même. Et même s'il y a eu des mensonges, même s'il est mort, je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça, ouais, de l'avoir rencontré.
Let me tell you how I arrived here. Honestly, I don't remember, but I feel strong pain in the back of my head. I remember now, I am dead, I am dead.
C'était Le Désert, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Morgane, à Laure, à Anne-Sophie et à Karine. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Sincerely sorry for dying before you, my dear, and causing you dear tears. I am sorry for leaving you there. I didn't know that I'm sorry, madam. Dying.